Bonjour à toutes et à tous. Voudrais souhaiter la bienvenue aux personnes, notamment que je vois pour la première fois, et en tout cas à chacun d'entre vous, après cette période des fêtes de fin d'année. C'est avec joie que je vous retrouve en 2026. Donc, bonne année à chacune et à chacun. Que le Seigneur nous accorde individuellement et en Église la grâce de mieux le connaître, pour l'aimer et pour continuer de vivre pour lui. Avec la rentrée de septembre, le mois de janvier représente aussi un nouveau démarrage. C'est là que démarrent les fameuses résolutions. C'est en janvier que nous nous disons que nous allons changer nos habitudes, que cette année, nous allons faire mieux que l'an passé. Alors que nous sommes encore au cœur de l'hiver, nous retrouvons en janvier un regain d'énergie, de motivation. Et si nous profitions de ce pic d'énergie pour penser aussi à nos disciplines spirituelles, telles que la lecture de la parole de Dieu et la prière? En effet, nous consacrons ce premier mois de l'année à parler de la prière. Et nous n'allons pas nous contenter simplement d'en parler, mais également en pratique, nous passerons du temps à prier. Et courant janvier, il y aura la semaine universelle de prière organisée par le CNEF. Et pour l'occasion, une réunion de prière aura lieu avec nos frères et sœurs du CEP Saint-Maur. Et ce dimanche, ainsi que les trois suivants, nous étudierons plus en profondeur cette prière que nous venons de lire, la prière du Notre Père, qui est si fondamentale pour notre piété. Le Notre Père, c'est sûrement la prière la plus connue parmi les chrétiens. Il n'y a pas si longtemps déjà, dans notre église, en septembre dernier, un message a été prêché dessus. Et vous avez très certainement entendu d'autres prédications sur cette prière. Alors pourquoi prêcher une nouvelle fois sur cette prière tellement célèbre? Je me souviens que j'ai appris cette prière par cœur étant enfant, en français, comme en mandarin. Aujourd'hui, je me souviens mieux de la version française. Et cela fait longtemps que je connais cette prière, que je récite cette prière. Mais cela ne fait pas si longtemps que je comprends cette prière, chaque partie de cette prière. Un des risques avec la prière apprise par cœur, c'est que précisément nous ne la récitions plus avec le cœur. La récitation peut être purement mécanique, comme je réciterais une fable de La Fontaine. Or, cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples n'a pas été donnée pour une récitation machinale ou pour être répétée comme un mantra. Elle a été enseignée par Jésus pour savoir comment il faut prier Dieu, comment il faut s'adresser à lui. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, Jésus, dans ce discours qu'on appelle le Sermon sur la montagne, dénonce les mauvaises manières de prier. Oui, il existe des mauvaises manières de prier. Certains hypocrites prient seulement pour être vus des autres, pour être entendus des autres, pour que les autres aient l'impression qu'ils sont particulièrement religieux. Ça, c'est une mauvaise manière de prier. D'autres, pas plus sincères, pensent qu'en multipliant les paroles, ils inclineront le cœur de la divinité. C'est le cas, notamment à cette époque, des membres des autres peuples, des peuples idolâtres qui pensaient qu'en priant et à force de dire des paroles et des paroles, ils allaient enfin être entendus par leur Dieu. Là aussi, c'est une mauvaise manière de prier. Et Jésus dénonce cela. Ce n'est pas du tout ainsi qu'il faut s'y prendre avec le Dieu de la Bible. Jésus nous donne un tout autre exemple qui est, prenons-le ainsi, qui est la juste manière de prier. Qui est la juste manière de s'adresser à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur particulièrement le verset 9. Et je n'irai pas plus loin que le verset 9 de notre texte. Et dans ce verset 9, nous trouvons deux choses. Il est question de la première des relations et puis de la première des demandes. D'abord, la première des relations. Nous tous qui sommes ici, nous avons tous appris à prier, peut-être. Dès lors que nous étions capables d'articuler des mots, de dialoguer avec notre entourage, nous pouvions aussi, nous avions une capacité de pouvoir communiquer avec Dieu. En ce qui me concerne, quand j'étais enfant, c'est ma mère qui m'a appris à prier. En tout cas, j'ai un bon souvenir que c'est ma mère qui m'a appris à prier. C'est aussi, bien sûr, à l'église, à l'école du dimanche, que j'ai appris le Notre Père, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que j'ai commencé à prier en public. Oui, déjà enfant, on apprend à prier à haute voix devant les autres. Et si vous avez l'occasion d'entendre un enfant prier, vous vous dites que prier semble si simple, en fait. D'ailleurs, nous n'attendons pas d'eux qu'ils entament des tirades et des monologues sans fin. Un simple « Merci Seigneur pour ce repas ou pour cette journée » prononcé avec sincérité est bien suffisant. Avec le temps et surtout en prenant conscience du Dieu à qui il s'adresse, cet enfant dira d'autres choses. Il exprimera sa confiance, il priera pour les autres, pour ce monde perdu sans Christ. Mais lorsqu'on entend un enfant prier, on trouve que prier est tellement simple. Et c'est vrai, prier n'est pas si compliqué que cela. Dans l'Antiquité, nous étions bien loin de la simplicité. Les membres des autres peuples cherchaient à impressionner leur Dieu par beaucoup de blabla. Et Jésus dit à leur sujet au verset 7, si vous regardez le verset 7 avec moi, « Ils s'imaginent, ces gens des autres peuples, en effet qu'à force de parole, ils seront exaucés. » Et Jésus met en garde avec le verset suivant, « Ne les imitez pas, ne faites pas comme eux, ne pensez pas comme eux. » Ne priez pas comme si Dieu était manipulable par des mots, comme si on pouvait infléchir son cœur, juste par des paroles. Le problème, en fait, est de tout miser sur ses paroles, sur ses propres paroles, au lieu de tout miser sur Dieu. Jésus dit, ne les imitez pas, verset 8, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Toutes les autres divinités ne sont que de faux dieux, des dieux imaginaires. Dans notre monde, dans notre univers, il n'en existe qu'un seul. Et c'est le Dieu que Jésus est venu révéler. Il est un Père qui connaît déjà tous nos besoins sans que nous ayons à l'en informer. Quand j'expose ma détresse à Dieu, quand je prie au sujet de ce que je traverse de difficile au travail ou dans mes relations avec mon entourage, je n'informe pas Dieu sur toutes ces choses. Il le sait déjà. Il connaît déjà ce dont j'ai besoin, avant même que je puisse le dire. La prière chrétienne n'est jamais un « au cas où tu ne le saurais pas ». À qui pensons-nous nous adresser quand nous prions ? Dieu est un Père qui sait de quoi nous avons besoin. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il connaît nos besoins, tous nos besoins. Et si nous savons que Dieu est un Père qui connaît tous nos besoins, nous sommes appelés ce matin encore à lui faire confiance, en fait. À croire en sa bonté, comme nous l'avons chanté. Si Dieu connaît mes besoins, y compris ceux que j'ignore moi-même, il saura répondre à ses besoins, car c'est un bon Père. Un peu plus loin, dans ce même chapitre 6, Jésus dit au verset 31 et 32, « Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples, encore eux, qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Dieu sait déjà, connaît déjà absolument tous nos besoins. Et justement, c'est ainsi que commence la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Comment faut-il s'adresser à Dieu ? Comment l'appeler ? Ô Dieu ? Seigneur ? Jésus emploie ici une expression moins usuelle. pour les Juifs de l'époque. Notre Père. Notre Père. Dans certains textes de l'Ancien Testament, Dieu se présente comme le Père de la nation d'Israël. C'est lui qui est en effet à l'origine de ce peuple. C'est lui qui l'a constitué à partir d'Abraham et de ses descendants. Mais appeler Dieu Père est un pas décisif vers plus de proximité avec Dieu. Et Jésus nous y invite ici. Il nous invite à cette proximité avec Dieu. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de faire cette confidence que durant des années, parce que je n'y avais jamais réfléchi profondément, je n'appelais pas Dieu mon Père. Cela n'allait pas de soi, en fait, et je n'y accordais pas tant d'importance en réalité. Je n'avais pas complètement saisi qu'en Jésus, j'avais ce privilège. J'avais cette relation filiale avec Dieu. Et il m'a fallu du temps pour comprendre l'importance de prier en appelant Dieu mon Père ou notre Père. Parce que Dieu est réellement notre Père. Il nous a adoptés comme ses enfants. Cela est vrai si nous avons mis notre confiance en Jésus. Si nous avons cru que par la mort sur la croix et la résurrection de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Cela ne fait donc que quelques années que j'appelle Dieu Père dans mes prières. Rendez-vous compte que le Dieu de l'univers qui a créé le ciel et la terre accepte que nous l'appelions Père. Commencer sa prière par notre Père, c'est donc se positionner en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant adopté par Dieu. Commencer sa prière par notre Père, c'est reconnaître qu'il n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu, un Père qui m'aime et qui connaît déjà mes besoins. Notre Père. Est-ce que c'est ainsi que vous commencez vos prières? Notre Père. Mon Père. Ce n'est pas faux de l'appeler Seigneur. Ce n'est pas faux de l'appeler mon Dieu. Mais Jésus nous enseigne à prier notre Père. Et je crois qu'on découvre une autre facette de la relation avec Dieu. Dieu est donc mon Père et je suis son enfant. Et donc j'ai une relation particulière avec le Dieu de l'univers. Une relation qui n'est pas partagée par tous les hommes sur cette terre, mais uniquement par celles et ceux qui ont mis leur confiance en Christ. Jésus dit à ses disciples que c'est ainsi qu'ils s'adressent à Dieu. C'est leur privilège. Cela fait partie de leur identité en tant qu'enfant de Dieu. Oui, quel enfant n'appellerait pas son père père? C'est merveilleux de pouvoir appeler Dieu Père. Nous savons que nos pères terrestres ne sont pas toujours à la hauteur. Mais notre Père céleste est différent. Il se préoccupe vraiment de nous. Il sait tout de nous. Et il nous invite ce matin à nous adresser à lui avec toute la confiance d'un enfant qui l'appelle Père. Je mentionne encore un texte de l'apôtre Paul qui affirme l'immense privilège de cette relation filiale avec Dieu. Je cite Galates chapitre 4, les versets 4 à 7. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Je crois que ça change notre manière de voir Dieu. Je crois que ça change notre relation à Dieu. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Et comme je vous l'ai dit, durant des années entières, je n'ai jamais appelé Dieu Père, jusqu'à me rendre compte que je passais à côté de quelque chose, de ce que Jésus était en train d'enseigner ici à ses disciples. D'emblée, les disciples de Jésus apprennent à prier ensemble en disant « notre Père » au pluriel, « notre ». Pas juste mon Père, mais le Père de tous ceux qui sont en Christ, de tous ceux et celles qui suivent et aiment Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux. À peine mentionnait-on la proximité avec Dieu que ce dernier élément, qui est aux cieux, nous introduit dans une certaine distance. Dieu est notre Père, mais il est au ciel, comme un Dieu que nous ne pouvons pas atteindre ni toucher. Il est au ciel, donc au-dessus de la terre, au-dessus de tout ce qui se passe ici-bas, dans les affaires du monde, comme dans nos propres affaires. Il est, comme nous le disons en théologie, un Dieu transcendant, qui se distingue de sa création et qui est infiniment plus grand. Et pourtant, malgré cette supériorité évidente, Dieu n'est pas loin des affaires de ce monde. Il se préoccupe vraiment de nous. Oui, il faut prendre l'ensemble de l'expression pour parler de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, proximité, qui est aux cieux, distance. En l'appelant ainsi, nous reconnaissons que Dieu est notre Père et qu'il a un pouvoir et une autorité que nous n'avons pas. C'est lui qui est au ciel, pas nous. C'est pourquoi nous nous adressons à lui avec confiance, mais aussi avec respect. Il est notre Père, mais il est notre Père qui est aux cieux. Nous restons à notre juste place de créature. Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous pouvons lire au chapitre 5 et au verset 1 « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. » Que tes propos soient donc peu nombreux. Voilà une sage recommandation. Non pas à nous taire, mais à mesurer le poids de nos mots quand nous nous adressons à Dieu. Il est le Dieu transcendant. Le Dieu que Jésus nous enseigne à prier est un Dieu à prendre toujours au sérieux. Nous pouvons vivre une joyeuse communion avec lui. Nous pouvons avoir une intimité confiante avec lui, mais toujours avec le respect qui lui est dû. Dieu est au ciel et nous, nous sommes sur la terre. Et si la prière du Notre Père changeait notre manière de prier en 2026? En particulier parce que nous comprenons mieux à qui nous nous adressons. Nous comprenons dans quelle relation filiale nous nous trouvons grâce à Jésus-Christ. Dieu est le Père bienveillant et aimant de tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Notre Père. Un bon exercice que certains commentateurs ont pu suggérer, un bon exercice lorsque l'on s'apprête à prier, c'est qu'avant même de pouvoir prier, nous puissions prendre quelques instants pour repenser à qui nous sommes et à qui nous nous adressons. Avant même de pouvoir prononcer les premiers mots, de pouvoir faire silence, repenser à qui nous sommes en tant que créature et à qui nous nous adressons, à qui nous nous apprêtons à parler. Ce Dieu qui est notre Père et qui est au ciel. Ainsi, par les premiers mots de la prière, vous voyez que je ne suis pas allé beaucoup plus loin, par les premiers mots de la prière, c'est ainsi que Jésus est en train de nous enseigner à prier et à pouvoir nous placer dans la première des relations, la plus importante de notre vie, celle que nous avons avec notre Père céleste. Oui, ça c'est la première des relations. et après l'avoir appelée, quelle doit être la première des demandes. C'est là que j'en viens à mon deuxième point, la première des demandes. Je relis le verset 9. « Voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Alors nous sommes plus familiers avec la traduction « que ton nom soit sanctifié ». Est-ce que nous comprenons toujours ce que nous demandons ici à Dieu ? Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de demander à Dieu ? D'aussi loin que je me souvienne, c'est la première des demandes et pourtant c'est celle qui me paraissait la plus énigmatique. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu quand nous disons cela ? Et pourquoi est-ce la première demande ? Pourquoi ne pas commencer par ce qui nous viendrait plus spontanément ? Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ou encore, notre Père qui es aux cieux, fais que cette journée se passe bien pour moi. Pourquoi ne pas venir devant Dieu et exposer tout de suite nos besoins qu'il connaît d'ailleurs déjà ? Pourquoi la première demande et les deux autres qui suivent concernent-elles Dieu et non pas mes propres besoins ? Nous avons là, je crois, une leçon à tirer pour notre vie de prière et pour notre manière de prier. Si le Notre Père commence ainsi, c'est parce que la préoccupation première des disciples devrait être celle de Dieu, avant même les autres préoccupations, avant même les autres inquiétudes ou besoins personnels. De quoi le disciple de Jésus se préoccupe-t-il avant tout ? De sa santé, de ses finances, de sa famille, de son avancement dans la carrière, de sa retraite, de ses loisirs, de ses vacances, de son confort. Ce n'est pas ainsi qu'est formulée la première des demandes, qui est que ton nom soit sanctifié. Avant même ma santé, mes finances, ma famille, mon avancement dans la carrière, ma retraite, mes loisirs, mes vacances, mon confort, avant même tout cela, il y a Dieu. Et là aussi, je dois confesser en premier que bon nombre de mes prières commencent par mes préoccupations personnelles, au point qu'il ne reste que peu de place pour Dieu. Et si la prière du Notre Père changeait notre manière de prier en 2026 ? Ce n'est pas seulement la société qui nous influence et qui fait de nous des consommateurs toujours plus omnubilés par leurs besoins. Mais c'est parce que nous sommes avant tout pécheurs que naturellement, nous nous tournons d'abord vers nous-mêmes, y compris dans la prière. Mais Jésus est venu pour changer tout cela. C'est pour cela qu'il donne un modèle de prière. Il révolutionne la manière de s'approcher de Dieu. Non pas d'abord avec mes propres besoins, mais d'abord avec comme sujet de préoccupation Dieu, lui-même. Jésus est venu pour changer tout cela, pour nous transformer de l'intérieur par son esprit, pour que de créatures égocentriques, nous devenions des créatures centrées sur Dieu. Est-ce que lorsque nous nous mettons à prier, cela reflète le fait que nous sommes centrés sur Dieu et pas sur nous. Si je vous pose cette question-là, c'est une question que je me pose aussi à moi-même. Est-ce que mon sujet de préoccupation numéro un est Dieu et pas ma santé et pas mon travail et pas ma famille et pas mon confort personnel. Jésus est venu pour exposer ce cœur que nous avons, ce cœur qui a tendance à être tourné vers lui-même, au lieu d'être tourné vers Dieu. Et c'est là le fond du problème. C'est un problème que Dieu ne soit pas premier dans notre vie, et dans nos prières. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a la capacité de nous transformer pour que nous devenions des créatures centrées sur Dieu. C'est ce qu'il est venu faire. Il ne va pas nous laisser comme ça. Il ne va pas nous laisser comme des créatures juste qui pensent à elles-mêmes et qui sont centrées sur elles-mêmes. Non, il va venir pour tout bouleverser, pour nous transformer, pour que nous devenions des personnes centrées sur lui, sur Dieu. Je déplore le fait que les chrétiens s'adressent à Dieu uniquement pour leurs besoins, comme s'il était un distributeur de sucreries, ou comme s'il était le génie de la lampe prêt à exaucer nos vœux. C'est tellement rabaissant pour le Dieu de l'univers d'être réduit à un être qui est seulement là pour écouter nos requêtes. Je veux dire nos requêtes personnelles. Je suis attristé de voir à quel point nous, les chrétiens, nous pouvons avoir une image réduite de notre Père qui est dans les cieux. Un Dieu qui est là pour satisfaire à nos besoins. Ce n'est pas juste que nous ayons une telle relation avec Dieu. Ce n'est pas juste de réduire nos prières à des demandes quotidiennes qui nous concernent uniquement ou qui concernent les autres. Où est notre recherche prioritaire de la gloire de Dieu dans tout ça? Mes amis, Jésus nous enseigne ce matin à commencer nos prières en nous préoccupant de Dieu d'abord. Je ne suis pas sûr, voyez si je fais le parallèle, je ne suis pas sûr qu'un père terrestre apprécierait tellement ce genre de relation avec ses enfants s'il ne venait à lui que pour lui demander des choses et jamais pour savoir comment il va, ce qui l'intéresse, ce qui le préoccupe. Il me semble que la relation père-enfant est bien plus que cela, que de demander des choses à son père. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu alors? Je n'ai pas encore répondu à cette question. Eh bien, nous demandons qu'il soit reconnu comme Dieu, qu'il soit reconnu comme saint. En hébreu, il était courant d'employer le mot « nom » pour parler de la personne qui porte ce nom. Matthieu, qui est juif, bien qu'il écrive ici en grec, s'adresse à un auditoire qui est aussi d'arrière-plan juif. Et donc, quand il utilise cette formulation, bien sûr qui vient de Jésus lui-même, « que ton nom soit sanctifié », il faut bien comprendre que Dieu soit sanctifié. Qu'il soit reconnu pour ce qu'il est vraiment. Et reconnu par qui? Eh bien, par tous. Par les enfants, par les jeunes, par les moins jeunes. Par tous les hommes, par toutes les femmes, par toutes les nations. Avons-nous, frères et sœurs, ce souci que Dieu soit reconnu pour ce qu'il est vraiment? Le Dieu saint, digne de notre plus grande vénération, digne d'adoration, digne d'être honoré, respecté, aimé. Un Dieu digne que nos besoins personnels passent au second plan. Quand nous prions que ton nom soit sanctifié, nous disons toute notre préoccupation que Dieu soit mis en avant, que sa gloire soit première et passe avant le moindre de nos besoins et de nos sujets de prière personnels. Dans le Notre Père, la première des demandes place Dieu lui-même en premier. La première des demandes dans cette prière du Notre Père place Dieu lui-même en premier. L'ordre des demandes dans nos prières est important et révèle ce qui est réellement notre première préoccupation. Et je comprends que lorsqu'on est dans l'inquiétude, notre première préoccupation, c'est de parler de nos inquiétudes à Dieu. Mais il y a plus important que nos inquiétudes. Il y a Dieu lui-même. Il y a le fait que son nom soit sanctifié, qu'il soit reconnu comme Dieu. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Dieu veut être connu de tous les hommes et que tous le reconnaissent comme véritablement Dieu et ne se moquent pas de lui. Et c'est ça qui doit nous préoccuper, en fait. C'est ça que Jésus est venu changer dans notre manière de penser. Quelle est notre préoccupation première? Est-ce nous-mêmes? Est-ce les autres? Ce qui semble déjà un peu plus louable. Ou est-ce Dieu? Que Dieu soit toujours premier dans nos prières communautaires comme individuelles. Et si nous demandons à Dieu qu'il soit reconnu par les autres pour ce qu'il est, cela engage nécessairement notre témoignage, notre manière de vivre. À quoi verront-ils, les autres, que Dieu est saint, si ce n'est à la manière dont nous nous comportons chaque jour? Comment verront-ils que Dieu est bon si nous ne sommes pas bons avec les autres? Comment verront-ils que Dieu est amour si notre comportement ne reflète pas l'amour pour notre prochain? Dans ce même sermon sur la montagne, Jésus enseigne, en Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Comment pourront-ils célébrer la gloire de notre Père céleste? C'est lorsqu'ils verront notre belle manière d'agir. Donc, lorsque nous prions que ton nom soit sanctifié, cela engage notre manière de vivre, qui doit pouvoir aller dans le sens aussi d'atteindre ce but, que effectivement Dieu soit honoré, déjà premièrement, dans ma propre vie. Et que les autres le voient et qu'ils puissent à leur tour honorer Dieu. Alors faisons le point ce matin et laissons-nous instruire par le Seigneur Jésus afin de nous approprier la première des demandes du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Si la gloire de Dieu est notre préoccupation première, cela va orienter le reste de notre prière. Cela va même orienter toute cette année 2026. Et cela va orienter tout le reste de notre vie. Si la gloire de Dieu est notre préoccupation première, cela oriente absolument tout dans notre vie. Donc si je devais résumer le message, finalement, de ce verset 9 de notre texte, je dirais ceci: notre Père céleste attend de nous que nous nous préoccupions d'abord de sa gloire. Il attend de nous que nous nous préoccupions d'abord, pas uniquement, mais d'abord, de sa gloire. Parce que Dieu passe avant tout le reste, avant même ma propre vie. Le plus extraordinaire, c'est que Jésus a fait le déplacement depuis le ciel pour nous l'enseigner. Dans son sermon sur la montagne, il corrige un certain nombre de mauvaises compréhensions de la loi, un certain nombre de mauvaises pratiques qu'il demande à ses disciples, qu'il nous demande de ne pas imiter. Rappelons-nous, en ce début d'année 2026, et pour la semaine qui vient en particulier, que notre Père connaît déjà nos besoins avant que nous ne les exprimions. Nous n'avons pas besoin de multiplier les paroles pour nous adresser à lui. En tout cas, des paroles auxquelles nous ne pensons pas grand-chose. Rappelons-nous qu'il est au ciel, au-dessus de tout et de tous, et que nous, nous sommes sur la terre. Et cela nous invite à avoir le plus grand respect pour lui. Et rappelons-nous enfin que dans cette relation privilégiée que nous avons avec notre Père céleste, dans cette relation qui est vécue à travers la prière, ce ne sont pas nos besoins qui sont premiers, mais sa gloire. Amen. Je vous invite à la prière. Très certainement que nous avons besoin de plus de temps pour nous rendre compte de qui nous sommes et de qui tu es. Parce que c'est vrai, la prière n'est pas une chose anodine, mais elle nous engage dans une relation vivante avec toi, le Dieu vivant. Dans une relation personnelle avec toi, le Dieu personnel. Dans une relation où tout ce qui doit nous venir, c'est à la fois la crainte, le respect, la vénération, le souhait de t'honorer, de te respecter comme tu le mérites. Et merci de nous avoir accordé ce privilège unique de pouvoir t'appeler Père. Parce que c'est vraiment ce que tu es pour nous. C'est vraiment ce que tu es pour nous qui sommes en Christ. Et je prie que si parmi nous il y a des personnes qui ne sont pas encore en Christ, qu'elles puissent aussi découvrir un tel privilège. Qu'en venant à Christ, elles puissent découvrir qu'elles ont accès au Père, à ce Dieu qui connaît le moindre de nos besoins avant même que nous puissions les exprimer. Et comme tu nous l'enseignes encore ce matin, eh bien, nous voulons simplement dire oui, que ton nom soit sanctifié. Oui, que tu sois honoré, non seulement déjà par nous-mêmes en premier, par ton Église ici qui se réunit à Saint-Maur, mais aussi par le monde entier. Oui, nous devons effectivement désirer ta gloire avant même nos propres besoins. Apprends-nous cela, Seigneur, parce que ce n'est vraiment pas naturel. Agis, Seigneur, de manière surnaturelle dans notre vie, de telle sorte que nous nous mettions à prier comme tu nous l'enseignes, en mettant Dieu en premier. Oui, nous avons besoin, Seigneur, que tu fasses cette œuvre en nous, en ce début d'année, pour que tout au long de cette année, nous apprenions à prier de cette manière-là. À nous préoccuper d'abord de toi, avant même de nous préoccuper des autres et de nous-mêmes. Merci encore pour ta parole ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen.